RFI, les 14h à Paris, 8h à Port-au-Prince et Washington. Dernière demi-heure de RFI Midi consacrée aux Amériques et Haïti. Dans un instant, Pétionville qui pourrait tomber aux mains des groupes armés en ce 7 février, jour de la chute de la dictature des Duvaliers en 1986. Comme chaque premier vendredi du mois, on retrouvera nos confrères du site Aïbo Post. On parlera du Fort Saint-Joseph, symbole de lutte et de résistance pourtant menacée. Nous nous intéresserons aussi au canal de Panama, nouveau terrain de conflit entre la Chine et les États-Unis qui veulent reprendre son contrôle. Canal menacé aussi par le changement climatique et la sécheresse. La colère des Péruviens également, puisque depuis le début de l'année, près de 200 personnes ont été tuées par des bandes organisées à Lima. Commerçants, chauffeurs de bus disent stop. Reportage dans quelques minutes. Et puis, on retrouvera évidemment le journal des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand.
Et nous parlerons de Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC en Martinique, qui dénonce une nouvelle fois les accords signés en octobre dernier. Il réclame la tenue d'une nouvelle table ronde sur la vie chère.
Mais avant cela, le journal avec Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous.
La CPI riposte, l'ONU s'indigne et Israël se félicite.
Cascade de réactions suite aux sanctions américaines contre la Cour pénale internationale. La CPI, à qui Donald Trump reproche d'avoir mené des actions illégales et sans fondement contre les États-Unis et son allié israélien. Le président américain s'est donc emparé de l'un de ses stylos pour signer un décret interdisant notamment l'entrée aux États-Unis des dirigeants, des employés et des agents de l'institution. Nous sommes en direct de La Haye, aux Pays-Bas, où siège la CPI. Stéphanie Maupa, c'est un vent de panique qui souffle sur La Haye. Comment la Cour se prépare ?
Oui, en fait, la Cour se prépare depuis des semaines pour contrer les représailles promises par les proches du nouveau résident de la Maison-Blanche. Alors, pour l'instant, les noms des cibles de ce décret ne sont pas publics. Beaucoup pensent qu'il pourrait viser, dans un premier temps, son procureur Karim Khan et les juges qui ont émis le mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Et au cours des dernières semaines, pour tenter d'atténuer le choc, eh bien, certains fonctionnaires de la Cour ont changé de poste. Et le greffe a aussi offert une avance sur salaire à une partie des employés, puisque les sanctions, vous le savez, visent tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans cette enquête qui vise des responsables israéliens. Et les sanctions concernent non seulement des fonctionnaires de la Cour, mais aussi des cabinets d'avocats, universités, ONG, qui coopèrent avec cette Cour et qui sont extérieurs à celle-ci, mais aussi, et c'est plus grave pour la Cour, les fonctionnaires des États partis à la Cour, qui sont censés coopérer avec elle, une coopération sans laquelle la CPI ne peut ni enquêter ni arrêter les suspects. Alors, la CPI craignait des sanctions encore plus larges qui pourraient l'empêcher de fonctionner, entravant son système bancaire ou empêchant son accès au système informatique de conservation des preuves, par exemple. Certains craignent que ce ne soit que partie remise, car un projet de loi en ce sens est toujours à l'examen devant le Sénat américain.
Stéphanie Maupa, en direct de La Haye, merci à vous. Aux États-Unis, Donald Trump est aussi également à l'assaut de la bureaucratie fédérale qu'il veut réduire drastiquement. L'Agence des États-Unis pour le développement international est particulièrement visée.
L'administration américaine qui n'épargne pas Téhéran.
Avec des sanctions, cette fois à l'encontre d'un réseau de livraison de pétrole iranien vers la Chine. Première illustration de la politique de pression maximale que Donald Trump souhaite appliquer à l'égard de Téhéran. Le guide suprême iranien met en garde aujourd'hui contre des mesures de réciprocité. Les explications de Siavosh Ghazi.
Dans un discours devant des gradés de l'armée de l'air iranienne, l'Ayatollah Ali Khamenei a réagi aux déclarations du président Donald Trump qui a affirmé mardi que les États-Unis étaient prêts à négocier avec l'Iran sur le dossier nucléaire, tout en signant un ordre exécutif pour imposer des pressions maximales contre Téhéran.
Négocier avec les États-Unis n'aura aucun effet pour régler les problèmes du pays. Négocier avec un tel gouvernement n'est pas raisonnable et intelligent.
Dans son discours, il a ajouté que si les États-Unis menaçaient l'Iran, Téhéran répondra par des menaces et si Washington mettait à exécution ces menaces, l'Iran fera de même. Ainsi, le numéro un iranien a fermé la porte à toute négociation avec les États-Unis du président Trump, alors qu'une partie des responsables proches du président modéré Massoud Pezeshkian ont fait des déclarations ces derniers jours favorables à des négociations avec Washington. La situation économique du pays ne cesse de se dégrader avec une hausse quotidienne des prix. La valeur de la monnaie iranienne est en chute libre face au dollar. Le gouvernement du président Trump a imposé de nouvelles sanctions contre Téhéran pour réduire à zéro les exportations pétrolières du pays. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
RFI, les 8h05 à Port-au-Prince, avec ce constat dramatique en Haïti.
Les violences sexuelles contre les enfants ont été multipliées par 10 en 2024, et ce par rapport à l'année précédente. James Elder, porte-parole de l'UNICEF, dénonce aujourd'hui la responsabilité des groupes armés qui infligent des horreurs inimaginables aux enfants en Haïti.
85% de Port-au-Prince est contrôlé par des groupes armés. C'est un niveau d'insécurité hallucinant pour une capitale. L'an passé, on estime que le recrutement d'enfants par les gangs a augmenté de 70%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 50% des membres de ces gangs sont des enfants. Les plus jeunes ont 8 ans. Ils sont recrutés par la force, par la manipulation ou à cause de la pauvreté extrême qui sévit à Haïti. C'est un cycle mortel. Ces enfants sont recrutés par les groupes qui sont responsables de leur souffrance. Les aires de jeu, les écoles, les maisons sont devenues des terrains de guerre. Des milliers de familles ont dû fuir. Plus d'un demi-million d'enfants sont déplacés et 3 millions ont besoin d'une aide humanitaire en 2025.
À des propos recueillis au micro RFI de Jérémy Lange. En France, François Bayrou et Gérald Darmanin main dans la main sur le dossier de l'immigration. L'immigration au sujet d'un débat trop étroit pour le garde des Sceaux, alors que le Premier ministre français souhaite lui un débat plus large. Au lendemain d'un vote pour restreindre le droit du sol dans l'archipel de Mayotte, François Bayrou souhaite donc rouvrir un débat plus large sur l'identité française.
Le sommet mondial sur l'intelligence artificielle continue à Paris.
Et dans ce contexte, Elisabeth Borne a annoncé le lancement prochain d'un appel d'offres à hauteur de 20 millions d'euros pour créer une IA à destination des professeurs français. De quoi peut-être rattraper l'Irlande où le virage de l'intelligence artificielle a déjà été pris par de nombreux enseignants. Des enseignants, Clémence Pénard, qui endosse alors le rôle d'élève pour se familiariser aux outils de l'IA.
C'est le cas de Nicolas, la quarantaine, qui veut pouvoir intégrer l'IA à ses propres cours.
On ne va pas pouvoir mettre l'IA sous le tapis. Donc nous devons rester ouverts et apprendre à l'utiliser. Et je pense que c'est important d'établir peut-être une sorte de cadre avec les élèves pour que tout le monde soit aligné sur son usage en classe.
Tout le monde, car l'IA offre des avantages pour les enseignants eux-mêmes, pour planifier leurs cours ou les rendre plus captivants, selon Sophie.
Ça m'aide à être plus créative dans l'élaboration de mes leçons. Par exemple, si je veux organiser une activité en plein air, je demande à ChatGPT, en lui donnant le sujet du cours, comment je pourrais rendre la journée la plus attractive possible, comment rendre cela amusant pour mes élèves.
Philippe, lui, professeur au collège, estime qu'il faut adopter l'IA sans la moindre hésitation.
Chaque élève en classe a un téléphone. Après tout, nous vivons à l'ère du numérique. Plutôt que de les en priver, il vaut mieux leur apprendre à utiliser ces outils de façon intelligente.
Une formation cruciale, donc, d'après ces enseignants, pour qu'ils puissent préparer leurs élèves à un avenir où ces technologies joueront un rôle central, surtout en Irlande, où les géants de la tech à Dublin recherchent dès à présent une main-d'œuvre hautement qualifiée dans ce domaine. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Dans le journal de Simon Bourtembourg. Merci Simon. Il est 14h08 à Paris, une heure de moins en temps universel.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et notre demi-heure sur le continent américain. Haïti, pour commencer, nous sommes le 7 février et c'est la journée de tous les dangers, Vincent Souriau.
Oui, la rumeur enfle depuis plusieurs jours. Les groupes armés de la coalition Vivre Ensemble se prépareraient à fondre sur Pétionville, banlieue cossue de Port-au-Prince, qui abrite la primature, le siège du gouvernement, mais aussi les ambassades et les organisations internationales. Pourquoi c'est un jour clé? Parce qu'en Haïti, cette date du 7 février renvoie notamment à la chute de la dictature des Duvaliers en 1986, poussé dehors par une insurrection populaire. Les gangs chercheraient à surfer sur ce symbole de l'histoire haïtienne. État d'alerte maximale décrété par le Conseil présidentiel de transition pour les trois prochains jours.
Une lueur d'espoir malgré tout, Vincent. L'administration Trump soutient bel et bien la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité.
Une visite très importante hier du nouveau patron de la diplomatie américaine. Marco Rubio n'a pas fait étape en Haïti. Il était juste à côté en République dominicaine et il l'a promis. Les États-Unis qui ont porté ce projet de la MMAS à bout de bras ne vont pas quitter le navire.
La solution pour Haïti est aux mains d'Haïti, de son peuple, de ses élites. Mais nous allons les aider. Nous allons participer parce que nous ne pouvons pas ignorer les problèmes actuels. Le futur du pays doit être aux mains des Haïtiens. Malheureusement, aujourd'hui, une grande partie du territoire est contrôlée par des gangs armés. Il faut faire face à ce danger. Le premier objectif est donc de pacifier la situation. Et la seule option, c'est la mission qui existe. Nous allons continuer à la soutenir, mais le cadre de cette mission doit être élargi pour pouvoir éliminer ces gangs.
Alors Washington ne lâche pas les Haïtiens, mais il faut élargir le spectre.
En substance, c'est aussi ce qu'a dit Luis Abinader à la sortie de son tête-à-tête à Saint-Domingue avec Marco Rubio. On connaît la rhétorique au vitriol du président dominicain au sujet d'Haïti. On connaît les tensions politiques et migratoires entre les deux pays. Abinader estime depuis toujours que la crise sécuritaire haïtienne menace les Dominicains. Et il s'est plaint hier que trop de gouvernements étrangers restent spectateurs du carnage.
Que no hay tiempo que perder, señor secretario.
Il n'y a pas de temps à perdre, monsieur le secrétaire d'État. La situation d'Haïti est une menace pour la sécurité de toute la région et pour les États-Unis. Chaque jour, le pays est confronté à la barbarie. Haïti se noie et pendant ce temps, une partie de la communauté internationale observe la gravité de la situation depuis le rivage. Nous savons tous deux que nos pays ne peuvent pas fuir la responsabilité de faire face à cette situation avec une grande détermination. Dans le cas d'Haïti, la participation des États-Unis est essentielle et irremplaçable.
Et coïncidence, Vincent, pendant qu'Abinader et Rubio échangeaient à Saint-Domingue, la MMAS accueillait à Port-au-Prince un nouveau contingent de policiers kényans.
144 agents sont arrivés hier, dont 24 femmes, les premières policières kényanes à être déployées en Haïti. La MMAS compte désormais environ un millier de membres. Elle récupère aussi 3 hélicoptères militaires en provenance du Salvador qui ont été livrés hier et qui vont servir à l'évacuation médicale des blessés.
On reste en Haïti, puisque comme chaque premier vendredi du mois, on retrouve nos confrères du site Haïbopost, média de référence en Haïti. Bonjour Luc Niz Duquerest.
Bonjour.
Une page d'histoire aujourd'hui, vous signez un article consacré à un monument du patrimoine, le Fort Saint-Joseph qui surplombe la baie du Cap-Haïtien. On va peut-être commencer par le rappeler, ce que représente ce site dans la mémoire du pays, parce qu'il est vraiment un symbole de lutte et de résistance.
Et effectivement, et comme tout autre site et fortification historique existant en Haïti, cache une histoire. Et celle du Fort Saint-Joseph au Cap-Haïtien dans le département du nord d'Haïti comporte également cette histoire vivant en relevant de la période du 18e siècle, soit en 1748 et 1774, par exemple. Là, on est en pleine période coloniale où ce fort a été construit par les colons français dans le but de protéger le territoire contre les potentielles attaques de forces ennemies et incursions des pirates. Bon, il faut bien dire, au cours de la période révolutionnaire à ces domaines, les esclaves ont repris de force le monument et on doit préciser également que le fort aujourd'hui, le Fort Saint-Joseph, fait partie d'un réseau stratégique qui comprend également le Fort Picolet, le Fort Magny et le Fort des Dames au Cap-Haïtien. Donc c'est une histoire vivante qui relève de cette série de monuments placés et sur le littoral du Cap-Haïtien.
Et aujourd'hui, ce fort est menacé. Pourtant, ça fait 20 ans qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et des travaux de restauration avaient commencé en 2022, mais ils ont été interrompus.
Ah, bien sûr, comme vous le savez, au fil des années, le monument a été très vulnérable par les menaces naturelles. Là, on parle de la situation d'érosion, des différents puits diluviennes et survenus dans la région. Étant donné le placement de ce monument sur le littoral, au fur et à mesure, le niveau de la mer a dû impacter une bonne partie de la structure du fort. Et c'est la raison pour laquelle, en 2022, un partenariat entre l'État haïtien et le secteur privé a été fait dans le but de restaurer le site. Et parmi cette restauration, la construction d'un mur de soutènement dans le but de protéger une partie du fort qui était exposée sur le littoral, qui était déjà fragile. Mais malheureusement, en novembre 2024, soit l'année dernière, après un glissement de terrain survenu dans la zone, le mur de soutènement a été effondré. Et l'effondrement du mur expose davantage la vulnérabilité du fort dans un contexte aujourd'hui où les travaux de restauration totale du monument n'étaient pas complets. En d'autres termes, qui ont été arrêtés.
On manque de moyens pour préserver ce site. C'est le cas d'ailleurs pour d'autres sites majeurs du patrimoine haïtien.
Et bien sûr, comme c'est le cas pour bien d'autres sites et fortifications historiques en Haïti, les menaces naturelles ou d'autres facteurs structurels les vulnérabilisent leurs états. Et pour conserver normalement les monuments, il faudrait avoir un processus de restauration et d'aménagement. Ce aujourd'hui qui est un défi par le manque de moyens et de financement. Aujourd'hui, beaucoup de sites en Haïti sont dans des situations similaires de vulnérabilité, voire même délaissées. Et selon les chiffres communiqués, aujourd'hui, près de 176 sites et fortifications historiques sont dans des situations logistiquement difficiles.
Merci, le CNIS du Kérest. Je rappelle le titre de votre article à retrouver sur aibopost.com. Le Fort Saint-Joseph, un site historique menacé de disparition dans le Nord.
RFI, la radio del mundo.
Le torchon brûle à nouveau entre la Chine et les États-Unis. Pékin dénonce aujourd'hui la mentalité de guerre froide de Washington en Amérique latine. Après les propos tenus par Marco Rubio, le nouveau chef de la diplomatie américaine qui a menacé de prendre des mesures contre le Panama, s'il ne procède pas à des changements immédiats pour réduire l'influence supposée de la Chine sur le canal de Panama, canal dont Donald Trump veut reprendre le contrôle. Et hier, le président panaméen José Raúl Mulino a annoncé officiellement sortir du projet d'infrastructure chinois des nouvelles routes de la soie. Il doit d'ailleurs appeler Donald Trump aujourd'hui. Les précisions de Grégoire Pourtier.
Dimanche, à l'issue de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le président panaméen José Raúl Mulino avait annoncé qu'il ne prolongerait pas la coopération avec la Chine sur le projet d'infrastructure dit des nouvelles routes de la soie. L'accord, renouvelé tous les 3 ans, se terminait en 2026. Or, Donald Trump veut que les choses aillent vite. Dès lundi, il a donc exprimé son insatisfaction et le Panama va finalement faire jouer sa clause de sortie dès maintenant pour un retrait effectif dans 90 jours. Cela ne semble pas être une immense concession pour Mulino puisqu'il a fait part de ses réserves sur le bilan de ce partenariat démarré en 2017 pour peu de résultats tangibles. Cependant, cette rupture avec Pékin ne règle pas tous les problèmes. Le président panaméen va s'entretenir ce vendredi avec son homologue américain qui pourrait bien exprimer d'autres exigences. 2 déports de la zone du canal sont exploités par des sociétés basées à Hong Kong, ce qui fait tiquer Donald Trump. Mais Mulino a prévenu qu'un audit était en cours et que son pays romprait le contrat seulement si une raison valable l'imposait à l'issue de ce processus. Autre mésentente, le département d'État dit avoir obtenu la gratuité pour le passage de la flotte militaire américaine sur le canal, ce qu'ont démenti les autorités locales. Grégoire Pourtier, Panama, RFI.
Bonjour Chloé Balta.
Bonjour.
Le canal, c'est la première source de revenus du pays. Il permet de relier les océans Atlantique et Pacifique sans avoir à contourner le continent par le sud. Le problème, c'est qu'en plus d'être menacé par le président américain, le changement climatique et la sécheresse le mettent en péril.
Eh bien, le canal de Panama repose sur un système de grandes écluses qui nécessitent d'énormes quantités d'eau douce. Chaque transit consomme environ 200 millions de litres d'eau, en grande partie rejetée dans la mer. Pour l'alimenter, 2 réservoirs artificiels, le lac Gatun et le lac Alajuela. Ils se nourrissent des précipitations et assurent non seulement le fonctionnement des écluses, mais aussi l'approvisionnement en eau potable des 4,4 millions d'habitants du pays. Seulement un problème, en 2023, le phénomène météorologique El Niño a provoqué une sécheresse historique, des bassins versants, ces zones qui collectent les eaux pluviales et qui garantissent l'approvisionnement en eau du canal. Le niveau d'eau est descendu à 1,80 m sous la normale, causant un ralentissement du commerce maritime international.
Ces dérèglements se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique. Résultat, l'autorité du canal plafonne le nombre de navires autorisés à traverser. Ça représente une grosse perte en matière de chiffre d'affaires. Ça a aussi des conséquences environnementales. Chloé, quelles solutions propose le gouvernement panaméen ?
D'abord des solutions de court terme, obliger les compagnies à réserver tout transit par le canal ou encore employer la technique du cross-filling. Elle consiste à réutiliser l'eau d'une chambre, d'une partie de l'écluse à l'autre, par un système de remplissage croisé. Et cela sauve l'équivalent de la consommation de 6 transits journaliers sur une trentaine en moyenne.
Et sur le long terme ?
Un projet, estimé à 1,6 milliard de dollars, 840 mètres de long et 80 mètres de haut, le projet de barrage Rio Indio. Le but, endiguer la rivière Indio toute proche et relier ce nouveau réservoir au lac Gatun qui alimente le canal en eau grâce à un tunnel de 8 km à creuser dans la montagne. Il permettrait jusqu'à 15 transits supplémentaires par jour pendant la saison sèche et sécuriserait l'approvisionnement en eau potable de la population.
Le président panaméen José Raúl Mulino y semble favorable, mais ce n'est pas le cas de la population locale et de certains experts.
En effet, ce projet implique des sacrifices. Deux vallées fluviales riches en biodiversité et habitées par des communautés agricoles seraient submergées. Près de 2260 personnes devraient être relogées et 2000 autres seraient partiellement affectées. Le gouvernement a promis une indemnisation, mais la population locale reste méfiante. Non au réservoir, c'est ce que clament les habitants. Mais le chercheur et directeur du projet de reforestation Agua Salud, Jefferson Hall, ne se fait pas d'illusions.
Vu de l'extérieur, je ne vois pas en quoi ils ont le choix. Ils doivent trouver une autre source d'eau. Le Rio Indio est l'une d'entre elles et fait l'objet de discussions depuis de nombreuses années. C'est donc une décision difficile à prendre, mais c'est la solution la plus évidente. Ils vont inonder quelques milliers d'hectares de pâturages et de forêts, mais ce n'est pas la plus grande crise écologique. Il est plus important d'essayer de garantir les déplacements des animaux et des plantes à travers les lieux de passage, et le plus grand défi sera d'ordre social.
Il ne reste plus qu'à attendre la fin des discussions sur le projet Rio Indio, qui, selon le président panaméen, s'achèveront l'année prochaine.
Merci Chloé Balta, il est 8h21 à Washington. Et on vous retrouve, Vincent Souriau, pour une nomination polémique validée par le Sénat américain.
Russell Vought confirmé à la tête d'une agence stratégique, le bureau américain du budget. Les démocrates ont tout fait pour saboter le processus, mais ils n'avaient pas les voix par 53 votes contre 47. Cet idéologue conservateur revient dans le fauteuil qu'il occupait pendant le premier mandat Trump. Pourquoi tant de haine? Parce que Russell Vought, c'est un partisan de la terre brûlée, co-auteur du projet 2025, un catalogue de mesures ultra libéral et réactionnaire censé servir de référence au parti républicain. Le New York Times rappelle l'un de ses discours à propos des fonctionnaires fédéraux. Écoutez bien, c'était en 2023. Nous voulons, disait-il, traumatiser les bureaucrates. Ce que nous voulons lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est qu'ils n'aient pas envie d'aller travailler parce qu'ils sentent qu'ils sont devenus pestiféré. Énorme plan d'économie à venir. Et voici la liste de ses premières cibles, selon la revue Forbes. Tailler dans les programmes d'éducation civique, réduire le périmètre du ministère du Logement, dépouiller l'assurance maladie pour les plus démunis et s'en prendre à l'Agence de protection de l'environnement. C'est aussi un défenseur acharné de la fonction présidentielle qui doit, selon lui, pouvoir passer outre certaines lois votées par le Congrès américain.
Merci Vincent Souriau. On en vient à ce chiffre alarmant, 200. C'est le nombre d'homicides enregistrés au Pérou depuis le début de l'année, des personnes assassinées par des bandes organisées, ce qui provoque évidemment l'inquiétude mais aussi la colère des Péruviens qui veulent des mesures pour éradiquer ce phénomène. Commerçants, chauffeurs de bus, habitants ont battu le pavé hier à Lima pour réclamer plus de sécurité. Le reportage pour RFI de Martin Chabal.
Ils ne veulent plus voir leurs voisins se faire tuer. Juan habite dans l'un des quartiers les plus pauvres de Lima. Les extorsions sont devenues monnaie courante depuis l'arrivée de Dina Boluarte à la présidence il y a 2 ans.
Ici au Pérou, on est arrivé à un point où si tu ne paies pas les bandes criminelles, elles t'assassinent, elles brûlent ta voiture et de plus en plus de monde se fait extorquer.
Il a le sentiment que le gouvernement ne prend aucune mesure pour lutter contre le crime organisé. Rosa, commerçante du centre de Lima, en veut au ministre de l'Intérieur, Juan José Santibáñez.
Je veux qu'ils partent tous. J'ai peur tous les jours. Mais il faut lutter contre la peur et venir ici, parce qu'il vaut mieux ça que d'être mort.
Depuis quelques mois, les vidéos d'extorsion des chauffeurs de bus et des passagers, mais aussi les photos de taxis criblés de balles sont fréquentes sur les réseaux sociaux. Et de fait, le sentiment d'insécurité ne cesse de monter à Lima. De son côté, le gouvernement accuse les manifestants de politiser la question de l'insécurité et de fomenter le trouble pour déstabiliser l'État et par là, laisser le champ libre aux bandes criminelles. Martin Chabal, Lima, RFI.
Il est 9h24 à Fort-de-France. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour.
Revoici Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC. Martiniquais dénonce une nouvelle fois les accords signés en octobre dernier, réclame un nouveau protocole contre la vie chère.
Oui, les accords signés le 11 octobre entre l'État, la collectivité territoriale et les grandes surfaces, malgré ses récents ennuis judiciaires, Rodrigue Petitot n'a pas perdu la foi. Il réclame la tenue d'une nouvelle table ronde, et cette fois-ci en présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
M. Manuel Valls, il a fait de belles annonces. Moi, j'attends qu'il fasse de belles actions. Dès ma sortie, j'ai demandé, si possible, sans injonction, qu'on puisse reprendre une table ronde avec M. Manuel Valls, avec les acteurs de la grande discussion. Parce qu'on sait aujourd'hui, il a été prouvé que ce protocole qu'ils ont signé, c'est ce que M. Ayot avait déjà proposé il y a 2 ans en arrière. Donc on est dans son protocole à lui. Donc si on est dans son protocole, on est dans ses avantages à lui. Il est temps qu'on puisse s'asseoir et dessiner de vraies solutions dans l'avantage du peuple martiniquais, du peuple guadeloupéen, guyanais, réunionnais. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression encore, parce qu'on attend que le gouvernement réagisse vraiment, on a l'impression qu'on avait un système gouvernemental qui était complice de tout ça. Il y a un gros monopole ici qui ne devrait pas exister, qui est totalement illégal.
Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, le directeur général du groupe Bernard Ayotte, Stéphane Ayotte, s'est lui exprimé hier sur le fameux protocole d'accord, signé donc en octobre dernier. Protocole qui devrait permettre à terme une baisse moyenne de 20% sur 6000 produits. Pour Stéphane Ayotte, les engagements de 2 des 3 signataires ont été tenus, mais il en manque un, et c'est l'État.
La collectivité territoriale a fait l'exonération d'octroi de mer qu'elle avait pris comme engagement sur ses produits. Les distributeurs ont tenu leur engagement et au 2 janvier, c'est-à-dire au premier jour d'ouverture de l'année, nous avons baissé nos marges et investi en marge ce qui avait été pris comme engagement à la signature du protocole. Les prix dans nos magasins ont baissé en moyenne de 9%.
Les choses vont pouvoir s'accélérer là avec le vote du budget.
Absolument. L'État doit faire 3 choses. Doit mettre à zéro la TVA comme il s'y était engagé. Il doit faire la continuité territoriale, c'est-à-dire permettre aux produits d'arriver à la Martinique à des prix plus bas. Nous les achetons au même prix qu'un hypermarché en métropole, mais les produits font 7000 km et à la fin paye un octroi de mer. Si l'État prend en charge la continuité territoriale, et seulement dans ce cas-là, il ne faut pas raconter d'histoire, c'est seulement dans ce cas-là, à ce moment-là, nous pourrons arriver aux 20% de baisse que les Martiniquais attendent, et ils ont raison.
Stéphane Ayotte répondait hier matin aux questions de Grégory Gabour sur l'antenne de la Première Martinique. Bon après-midi, bon week-end, à lundi.
Bon week-end à vous aussi, Benoît Ferrand. Merci beaucoup. Avant Littérature sans frontières, dans 3 minutes avec Catherine Fruchon-Toussaint. Avant de nous quitter, on va écouter un petit peu de musique avec Pucho. I like it like that sur RFI. Yo man, look over there man, look over there man. Look man, honey's looking good man. She's looking good man. Yeah. C'était Pucho, I like it like that. Merci de votre fidélité à RFI. Merci d'avoir écouté RFI Midi.